Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Le choc des bagarres mortelles dans l'Essonne. Deux adolescents de 14 ans poignardés à mort, un autre de 13 ans gravement blessé, ses jours ne sont plus en danger. Et pour ces deux affaires, une douzaine de mineurs en garde à vue. Une fuite massive de données personnelles, une trentaine de laboratoires français ont été piratés. Les informations divulguées sur Internet concernent près d'un demi-million de personnes. Dunkerque dans l'attente de nouvelles restrictions, nouveau conseil de défense à l'Élysée. Alors que l'épidémie repart, le cas par cas sera-t-il tenable? Dans ce journal, le début de la vaccination demain chez les généralistes, le plan de reconquête de la SNCF après une année noire et des répétitions d'enfants à la Philharmonie avant les victoires de la musique. Invité d'Europe Midi, l'essayiste américain Thomas Chatterton Williams qui veut désapprendre l'idée de race et qui s'oppose à la cancel culture. Il publie Autoportrait en noir et blanc.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mourir à 14 ans. 14 ans d'un coup de couteau donné par un adolescent du même âge. Les deux bagarres mortelles survenues en moins de 24 heures dans le même département n'ont a priori rien à voir. Les deux villes de Saint-Chéron et Boussy-Saint-Antoine sont distantes de 45 kilomètres, mais dans les deux cas, des bandes de collégiens désœuvrés, des batailles de territoire, une violence qui n'est pas forcément liée à des trafics. Voyons avec vous, Gladys Laffitte, ce que l'on sait de ces meurtres qui sont les protagonistes. Et d'abord pour le drame d'hier à Boussy-Saint-Antoine.
Oui, alors hier, 6 jeunes ont été interpellés pendant la rixe. Tous ont 17 ans. L'un d'eux a d'ailleurs été légèrement blessé. Et parmi eux, deux sont déjà connus des services de police pour des faits de vol et de détention d'armes blanches. Comme un couteau, par exemple, c'est considéré comme une arme de catégorie D, dont le port est interdit aux mineurs d'une part et qu'il est interdit d'avoir sur soi sans motif légitime. Par exemple, pour mieux affronter une altercation ou un danger, ça ne constitue pas un motif légitime en soi. C'est apprécié au cas par cas par les policiers. Dans cette affaire, il y a aussi une septième personne en garde à vue. Il se présente comme l'auteur des coups de couteau. Il a 15 ans. Il s'est rendu de lui-même au commissariat hier soir et lui aussi est connu pour un fait de port d'armes blanches.
À Saint-Chéron, le profil de la victime est celui d'une adolescente en grande difficulté scolaire.
Oui, Lily Bell, elle a 14 ans, elle est collégienne, la plus jeune d'une fratrie de 4 enfants, renvoyée de plusieurs établissements. Elle faisait même l'objet d'un suivi éducatif par un juge des enfants et venait d'intégrer ce qu'on appelle une classe relais, spécialisée dans l'accueil d'élèves en marginalisation scolaire. On sait aussi que celui qui lui a infligé un coup d'opinel mortel, à 16 ans, il a avoué en garde à vue, il est lui aussi connu de la justice pour deux infractions, mais sans lien avec des faits de violence. Et 5 autres jeunes sont encore en garde à vue. 3 sont âgés de seulement 13 ans. Ils avaient été interpellés alors qu'ils prenaient la fuite après la rixe.
Gladys Laffitte. Un demi-million de résultats d'analyse et de données personnelles répandues sur la toile en accès libre. C'est l'un des plus grands piratages jamais connus en France. Une trentaine de laboratoires de biologie médicale ont vu leurs fichiers ou informations sensibles aspirés par des hackers. Révélation ce matin du journal Libération. Comment est-ce possible, Justin Morin ?
Eh bien, tout simplement parce que toutes ces données entrées par les laboratoires médicaux dans des logiciels informatiques ne sont pas assez sécurisées. Des cybercriminels n'ont eu aucun mal à les pirater afin de récupérer toutes ces informations extrêmement sensibles. Vous le disiez, cette liste est composée de près de 500 000 noms, prénoms, âges, dates de naissance, numéros de sécurité sociale des patients concernés. Mais certains noms sont aussi associés à un traitement, à une pathologie. On peut lire que tel patient est séropositif, que tel autre est sourd, qu'une autre est enceinte. Des informations intimes liées au secret médical, aujourd'hui accessibles sur Internet. Alors ce n'est pas non plus si simple d'y avoir accès. Elles se partagent sur des groupes de discussion encore relativement fermés, mais elles circulent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de liste est très envié parce qu'elle constitue une marchandise monnayable entre pirates informatiques. Ces infos peuvent être utilisées pour réaliser des escroqueries, par exemple des campagnes d'hameçonnage par mail. Et si elle a été rendue publique, c'est certainement, selon Damien Brancal, le journaliste blogueur spécialiste de la cyber criminalité qui a révélé cette affaire, parce qu'elle était au cœur d'une négociation commerciale entre pirates informatiques, une négociation qui a mal tourné. Ces données ont été publiées et ont ainsi perdu toute leur valeur.
Merci Justin Morin. La crise sanitaire, Dunkerque dans l'attente de nouvelles restrictions. Olivier Véran y est attendu dans l'après-midi pour de nouvelles discussions avec les élus locaux. Mais face au regain épidémique, la nouvelle approche de l'exécutif au cas par cas suffira-t-elle? Le pouvoir, Jean-Rémy Bodo, le pouvoir cherche la bonne formule.
Oui, Patrick, avec néanmoins toujours une certitude actuellement. Dans le contexte actuel, il faut régionaliser. Voilà les mots qu'Emmanuel Macron a prononcés hier devant quelques élus. Priorité donc à des mesures par zone, après Nice et sa région. C'est donc ce que le gouvernement s'apprête à faire à Dunkerque. Le préfet devrait d'ailleurs faire des annonces après la visite d'Olivier Véran aujourd'hui. L'exécutif qui observe avec inquiétude plusieurs autres zones. On se prépare à faire basculer d'autres départements, confie un important conseiller. La question de l'Île-de-France est posée. Une décision qui serait lourde de sens pour le gouvernement. Ça donnerait une ampleur nationale si on touchait à Paris et sa région, s'inquiète un membre de cabinet. Pour l'heure, en coulisses, on comprend que l'exécutif veut surtout gagner un peu de temps, laisser aux Français la possibilité de profiter un peu de leurs vacances. Une chose est sûre, malgré les demandes de certains élus, notamment en Bretagne, l'heure n'est pas du tout au relâchement.
Gagner du temps, mais combien de temps? Merci Jean-Rémy Bodo. Demain débute une campagne de vaccination chez les médecins généralistes. La moitié d'entre eux, 29 000 sur 57 000, ont réservé des doses. Et des rendez-vous, Anne Le Gall.
Oui, des rendez-vous groupés sur une demi-journée, car le vaccin AstraZeneca est conditionné par flacon multidose qu'il faut utiliser rapidement. 2 millions de Français sont concernés, ce sont les 50-64 ans qui souffrent de facteurs de comorbidité. Mais cette campagne vaccinale va démarrer doucement, car les généralistes n'auront à disposition cette semaine qu'un seul flacon, soit 10 injections. Le président du Conseil de l'Ordre des médecins, le docteur Patrick Bouet, espère de nouvelles doses rapidement, mais bon point selon lui. Le ministère de la Santé a communiqué des données rassurantes concernant les effets secondaires du vaccin.
Nous ne sommes pas réellement inquiets puisque les éléments scientifiques nous confirment dans le fait que ces effets secondaires ne sont finalement pas plus fréquents que ce qui était attendu. Et les médecins sont dans un processus d'explication. Mais vous savez, aujourd'hui, 54% de la population souhaite se faire vacciner. Les patients qui sont en attente ou en recherche de vaccination les utilisent et les utiliseront.
Effectivement, la situation n'a rien à voir avec la défiance qui existait avant Noël, estime aussi le docteur Jacques Battistoni, président de MG France. Ce médecin rappelle d'ailleurs à ses patients que les effets secondaires, fièvre, parfois courbature, concernent davantage les jeunes que les 50-64 ans.
Anne Le Gall.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant la suite, le plan de la SNCF pour vous faire préférer à nouveau le train.
Europe Midi. Patrick Cohen.
La SNCF va publier ses résultats dans un peu plus d'une heure et ils sont très mauvais. Environ 5 milliards d'euros de pertes l'an dernier. Année noire pour le transport, comme pour beaucoup d'autres secteurs. Les Français n'ont jamais aussi peu voyagé à cause du Covid. Mais la SNCF espère bien, dans les mois à venir, nous faire remonter à bord, Emmanuel Dutheil.
Oui, hein, et pour cela, il compte travailler sur les prix. On s'est tous dit au moins une fois, bon sang, que c'est cher la SNCF. La raison est simple, hein, les petits prix ne sont disponibles que pour les tout premiers qui réservent et ensuite le prix du billet s'envole. La compagnie travaille donc à une refonte complète de ses tarifs. Le but, réussir à avoir des petits prix aussi au dernier moment. C'est indispensable, hein, pour faire venir les jeunes qui préfèrent souvent le covoiturage et tous ceux qui utilisent leur voiture pour faire des économies. Au-delà du prix, la SNCF a une autre carte dans sa manche pour faire revenir ses clients. Elle va jouer la carte verte. On pourrait résumer le message ainsi. Le train, c'est plus écolo. Elle va orienter toute sa communication sur ce terrain. Elle veut aussi donner envie aux clientèles professionnelles de remonter à bord. Elle s'attend à perdre 15% de clients pro dans ses trains dans les années à venir. Même après la crise, certains vont privilégier les réunions virtuelles. Alors elle va lancer des offres d'abonnement plus flexibles. Elle veut ainsi aller chercher notamment les salariés des PME qui ont pour le moment moins d'abonnements.
En Allemagne, le verdict d'un procès historique, le premier pour les horreurs perpétrées par le régime syrien. La haute cour de Koblenz vient de condamner un ancien barbouze du régime de Bachar al-Assad à 4 ans et demi de prison pour complicité de crimes contre l'humanité. L'Allemagne applique le principe de la compétence universelle qui permet de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, quel que soit l'endroit où ils ont été commis. En Corée, un passage de frontière rocambolesque, un habitant du nord communiste est parvenu à atteindre le sud en nageant pendant 6 heures pour contourner l'une des frontières les plus surveillées et les plus militarisées du monde. Il a emprunté une canalisation pour passer sous les barbelés qui interdisent l'accès de la mer. Mais cet exploit a été couvert par une énorme polémique en Corée du Sud sur les défaillances de son armée. Le fugitif nord-coréen est en effet apparu 8 fois sur les caméras de surveillance et fait retentir 2 fois les alarmes sonores sans faire bouger les militaires de garde. Aux États-Unis, l'avenir incertain de la superstar du golf Tiger Woods, gravement blessé aux jambes lors d'un accident de voiture. De multiples fractures ouvertes qui ont nécessité l'insertion d'une tige métallique dans le tibia. Mais le sportif de 45 ans est éveillé, conscient et se repose, ont dit les médecins. Enfin, l'hémorragie de rugbymen a été stoppée au sein du 15 de France. Aucun nouveau cas de Covid depuis 48 heures. L'équipe, privée de la moitié de ses titulaires, pourra affronter l'Écosse dimanche. Ce soir, 28e édition des Victoires de la musique. Un genre, le classique, la musique classique que des milliers d'élèves apprennent grâce au projet Demos, qui vise à démocratiser la pratique d'un instrument, y compris dans des milieux populaires. Cette semaine, des dizaines d'enfants étaient ainsi en stage à la Philharmonie de Paris avant un prochain concert. Reportage d'Angèle Châtelier.
Un jeune trompettiste d'une dizaine d'années s'échauffe sur le générique d'Harry Potter. Puis les répétitions commencent.
On met les flûtes et les clarinettes ensemble.
Il y a une quinzaine de pupitres, autant de musiciens de l'Orchestre de Paris qui encadrent une soixantaine d'enfants, vraiment débutants ou plus confirmés, comme Youssef, 14 ans. Il joue de l'euphonium, un petit tuba, depuis 5 ans sur son temps libre. C'est sa mère qui l'y a poussé.
Ça m'apporte plein de choses à l'école, par exemple concentration, écoute.
La particularité du dispositif Demos, c'est que les élèves apprennent leur instrument dans un orchestre, par le collectif, non pas en cours individuel. Joëlle Cousin, violoniste à l'Orchestre de Paris, en a accueilli lorsqu'elle enseignait au conservatoire.
C'était des enfants qui, même s'ils avaient un niveau technique individuel moins élevé, étaient par contre beaucoup plus à l'aise, avaient beaucoup plus de métier, tenir un tempo, de suivre un chef. C'est des enfants qui ont appris à jouer ensemble, à vivre ensemble, à être ensemble. Ça se sent vraiment.
Les musiciens en herbe, eux, se réunissent jusqu'à la fin de la semaine pour préparer un grand concert prévu le 21 juin dans la grande nef du musée d'Orsay.
Angèle Châtelier pour le reportage à la Philharmonie de Paris. Le temps, Nisa Haddadi, c'est le printemps ?
Oui, c'est le printemps, Patrick, parce que nous avons un temps aujourd'hui digne d'une mi-avril. Voilà, donc c'est vraiment le printemps. Le soleil brille sur presque toute la France. Le ciel est encore plus dégagé et plus bleu qu'hier. Sur la pointe bretonne, nous avons toujours quelques petits nuages qui s'accrochent et peut-être quelques gouttes. Et puis, au bord de la Méditerranée, sur les Cévennes, nous avons là aussi des nuages qui s'accrochent avec le vent d'OTAN qui souffle toujours fort jusqu'à 80 km/h. Ce mercredi, profitez-en si vous le pouvez, sera vraiment la plus belle journée de la semaine avec des températures en légère hausse. 13 degrés à Lorient, 14 pour Cherbourg, 16 à La Rochelle, 18 degrés à Lille et Dijon, 19 à Strasbourg et Belfort, 20 degrés cet après-midi à Bordeaux, Lyon et Paris, 21 à Clermont-Ferrand et 22 à Montluçon. Merci.